Évangile selon Marc, chapitre 8, seconde multiplication des pains, versets 1 à 9.
Lecture de la parole. En ces jours-là, comme il y avait là une fort grande foule, et qu'il n'avait rien à manger, Jésus, ayant appelé à lui ses disciples, leur dit « Je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui répondirent, « D'où les pourra-t-on rassasier de pain ici dans le désert ?» Et il leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» Et ils dirent, « 7. » Et il commanda à la foule de s'asseoir sur la terre. Et ayant pris les 7 pains, il rendit grâce, et les rompit et les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule. Et ils les mirent devant elle. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Et ayant béni, il dit qu'ils les missent aussi devant la foule. Et ils mangèrent et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux qui étaient de reste, 7 corbeilles. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 4000. Et il les renvoya.
Lecture de l'étude. Dans le récit de la multiplication des pains au chapitre 6, le Seigneur est ému de pitié envers les foules à cause de leurs besoins spirituels. Ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il les enseigne et pourvoit aussi à leurs besoins matériels, auxquels, dans cette seconde multiplication, la compassion de Jésus se rapporte davantage. Ce ne sont pas les disciples qui viennent dire à Jésus de renvoyer la foule afin qu'elle aille se procurer des vivres. Il les appelle lui-même et leur dit « Je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Versets 2 et 3. Dans son amour infini, qui prend connaissance de toutes les circonstances de ceux qui l'entourent, Jésus veut montrer que, quoi que les hommes pensent de lui, il veut agir envers son peuple selon son cœur plein de miséricorde, car il est l'Éternel qui voulait rassasier de pain ses pauvres. Psaume 132, verset 15.
Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasierai de pain ses pauvres.
Les compassions de Jésus ne rencontrent chez ses disciples que l'expression du doute et de leur ignorance à l'égard de sa puissance et de sa personne. Ignorance coupable, car ils avaient déjà été témoins de ce qu'avait fait Jésus en pareilles circonstances. D'où les pourra-t-on rassasier ici dans le désert? Hélas, ne sommes-nous pas souvent semblables aux disciples? Combien de fois, dans nos difficultés, nous regardons autour de nous et ne trouvons que le désert ou l'insuffisance de nos ressources, et nous sommes inquiets, ne sachant d'où nous viendra le secours, alors que nous lisons dans l'Évangile « Ne soyez pas en souci » et « Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses » Matthieu 6, versets 31 et 32. Le Seigneur est, en présence de nos peines et de nos besoins, le même que lorsqu'il se trouvait ici-bas. S'il juge bon de ne pas toujours répondre tout de suite à nos demandes, ni selon nos désirs, c'est afin de fortifier notre faible foi pour que nous nous attendions réellement à lui, que ce monde nous apparaisse comme un désert ou bien comme l'Égypte avec ses riches provisions. Les disciples avaient 7 pains et quelques petits poissons. Jésus les prit et, après avoir ordonné aux 4000 hommes de la foule de s'asseoir, il rendit grâce et les rompit, puis il les donna aux disciples pour qu'ils les distribuassent aux foules. Tous mangèrent à leur faim et on remplit 7 corbeilles avec les morceaux qui restèrent. Puis Jésus congédia la foule. Comme nous l'avons déjà remarqué, il ne renvoie jamais à vide ceux qui viennent à lui. Dans la multiplication des pains au chapitre 6, Jésus agit selon son caractère de Messie présenté à son peuple. C'est pourquoi il y a 12 corbeilles de reste, le nombre 12 indiquant la perfection dans l'administration humaine. Ici, malgré son rejet comme Messie, il agit selon la grâce et le pouvoir divin, ce qu'indique le nombre 7. Il y avait 7 pains et 7 corbeilles de reste, 7 étant le nombre parfait. Jésus refuse un signe aux pharisiens, versets 10 à 13.
Lecture de la parole. Et aussitôt, montant dans une nacelle avec ses disciples, il vint au quartier de Dalmanutha. Et les pharisiens sortirent et se mirent à disputer avec lui, demandant de lui un signe du ciel pour l'éprouver. Et, soupirant en son esprit, il dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous dis, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Et les laissant, il remonta de nouveau dans la nacelle et s'en alla à l'autre rive.
Lecture de l'étude. Jésus et ses disciples montent dans une nacelle et viennent au quartier de Dalmanutha. En Matthieu 15, verset 39, Magadan ou Magdala. Jésus se trouve là aux prises avec les pharisiens qui disputèrent avec lui et demandèrent un signe du ciel pour l'éprouver. Cette demande, qui provenait de l'incrédulité et de l'hypocrisie de ces gens, fait soupirer Jésus. Il avait déjà soupiré en constatant l'état misérable du peuple, représenté par l'homme sourd et muet, au chapitre 7, verset 34.
Et regardant vers le ciel, il soupira, et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ».
Dans ce cas, il y avait un remède dans sa grâce et sa puissance. Tandis que, devant l'incrédulité et l'hypocrisie des gens religieux, Jésus ne peut rien faire. Et soupirant en son esprit, il dit, « En vérité, je vous dis, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Et les laissant, il remonta de nouveau dans la nacelle et s'en alla à l'autre rive. Le signe, c'était lui-même, mais il ne le voulait pas. Jésus ne pouvait rien faire de plus qu'il n'avait fait au milieu d'eux. C'était inutile. La vie du Fils de Dieu, le serviteur parfait, était une vie de souffrance de tout genre, souffrance en voyant souffrir les hommes sous toutes les conséquences du péché, souffrance au spectacle de leur incrédulité et de leur mépris de l'amour qui apportait à tous la délivrance et le bonheur. Il était, dit Ésaïe, un homme de douleur et sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Ésaïe 53, verset 3. Ce précieux Sauveur réalisait toutes ses souffrances sur le chemin qui le conduisait à d'autres bien plus terribles, celle de la croix, cette croix où, selon les expressions mêmes du prophète, chapitre 53, verset 5, il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pour qui toutes ces souffrances, chers lecteurs, si ce n'est pour des coupables tels que vous et moi, afin que, par la foi en lui, nous fussions délivrés des terribles conséquences de nos péchés et eussions en partage, avec ce bien-aimé Sauveur, la gloire pour l'éternité? Pensons à ce que notre salut a coûté au Fils de Dieu, afin qu'il fût gratuit pour nous. Que les cœurs de ceux qui le connaissent soient étreints d'un amour tel qu'ils vivent pour lui, et qu'il attire à lui ceux qui n'ont encore vu aucune beauté en celui qui a quitté la gloire pour venir les sauver. Un levain à éviter, versets 14 à 21.
Lecture de la parole. Et ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la nacelle.
Et il leur enjoignit, disant, « Voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. »
Et ils raisonnaient entre eux, disant, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Et Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? N'entendez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas? Avez-vous encore votre cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Et ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand je rompis les 5 pains aux 5000, Combien recueillîtes-vous de paniers pleins de morceaux ? Ils lui disent 12. Et quand je rompis les 7 aux 4000, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines de morceaux ? Et ils dirent 7. Et il leur dit, comment ne comprenez-vous pas ?
Lecture de l'étude. Jésus met en garde les disciples contre les principes des pharisiens et d'Hérode. Voyez, leur dit-il, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Le levain est l'emblème d'une doctrine corruptrice. L'hypocrisie et l'impiété caractérisaient les pharisiens. Ils voulaient paraître religieux devant les hommes, sans avoir affaire avec Dieu, juge de toutes les pensées. Ils voulaient être les conservateurs de la religion juive, en opposition aux Sadducéens et aux Hérodiens. Et comme leurs avantages se liaient à cette religion, telle qu'ils l'enseignaient, ils manifestaient une violente inimitié à l'égard du Seigneur, qui mettait en lumière tout ce qui n'était pas selon Dieu. Les partisans d'Hérode étaient plutôt un parti politique. Pour plaire aux Romains, que représentait leur chef, ils se souciaient peu de leur religion. S'ils en avaient une, ils se rattachaient aux Sadducéens. Ces gens cherchaient à tirer tous les avantages possibles, à leur profit, de l'asservissement du peuple juif aux Romains. Un écrivain a dit d'eux, ils rendaient à César ce qui était à César, mais ils ne rendaient pas à Dieu ce qui était à Dieu. On comprend que le Seigneur mette en garde ses disciples contre de tels principes. Mais c'est triste de voir leur incapacité pour comprendre ces avertissements. Leurs pensées ne s'élevaient pas au-dessus de la matière. Quand Jésus leur parle de levain, ils pensent à du pain et croient que c'est parce qu'ils n'en avaient qu'un avec eux. La stupidité des disciples venait encore accroître la souffrance du cœur du Seigneur. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? N'entendez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous encore votre cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Et ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand je rompis les 5 pains aux 5000, combien recueillîtes-vous de paniers pleins de morceaux ? Ils lui disent 12. Et quand je rompis les 7 aux 4000, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines de morceaux ? Et ils disent 7. Et il leur dit, comment ne comprenez-vous pas ? Versets 17 à 21. L'inintelligence des disciples nous étonne, nous indigne même. Mais avec un peu de droiture, ne nous reconnaissons-nous pas en eux ? Quel profit avons-nous retiré des enseignements que nous avons reçus du Seigneur lorsque nous avons entendu sa parole ? Ou que nous avons fait l'expérience de sa bonté et de ses délivrances ? Nombreuses sont les occasions dans lesquelles il peut nous dire « Ne comprenez-vous pas ? Ne voyez-vous pas ? N'entendez-vous pas ? Avez-vous encore votre cœur endurci ? N'avez-vous point de mémoire ?» Réfléchissons à toutes les occasions dans lesquelles le Seigneur a dû nous rappeler nos inconséquences, notre indifférence, notre ingratitude, notre oubli continuel de sa parole. Après une lecture en famille, une réunion, nous nous laissons distraire par mille choses, si même nous ne l'avons pas été pendant que nous aurions dû écouter. Et lorsque, dans le cours de la journée, cette parole devrait nous être utile pour nous guider dans le chemin, nous encourager, nous consoler ou nous instruire, elle nous manque. Nous sommes sans ressources, sans intelligence. Nous avons oublié. Dans le chapitre 12 de l'Évangile selon Jean, le Seigneur rappelle une prophétie d'Ésaïe qui annonçait l'endurcissement du peuple comme jugement. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur afin qu'ils ne voient pas des yeux et qu'ils n'entendent pas du cœur et qu'ils ne soient convertis et que je ne les guérisse. Jean 12, verset 40. Le Seigneur était venu pour ouvrir les yeux et les oreilles du peuple, mais puisqu'ils ne le recevaient pas, ils demeuraient dans leur état pour être jugés. Les disciples, au contraire, avaient reçu Jésus. De là leur inconséquence. Et le Seigneur doit leur dire, « Êtes-vous encore dans cet état, puisque vous avez joui du privilège de voir et d'entendre ?» Les disciples n'auraient pas dû rester dans l'état où se trouvait le peuple. Et pourtant, Quant au résultat, il y avait peu de différence. Quel déshonneur fait au Seigneur lorsque la conduite du croyant ne diffère pas de celle de l'inconverti. Guérison de l'aveugle de Bethsaïda, versets 22 à 26.
Lecture de la parole. Et il vint à Bethsaïda, et on lui amène un aveugle, et on le prie pour qu'il le touche. Et ayant pris la main de l'aveugle, il le mena hors de la bourgade. Et lui ayant craché sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé, l'homme dit, « Je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. » Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder. Et il fut rétabli et voyait tout clairement. Et il le renvoya dans sa maison, disant, « N'entre pas dans la bourgade et ne le dis à personne dans la bourgade. »
Lecture de l'étude. À Bethsaïda, on amène un aveugle à Jésus afin qu'il le touche. Ceux qui faisaient cela savaient qu'il n'en fallait pas davantage pour communiquer la puissance qui délivre des infirmités. Mais Jésus ne guérit pas cet aveugle sur place. Il le prend par la main et le mène hors de la bourgade. Là, il crache sur ses yeux, pose les mains sur lui et lui demande s'il voit quelque chose. L'homme répondit, « Je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. » Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder, et il fut rétabli et voyait tout clairement. Cet homme, voyant imparfaitement, représente les disciples dans l'état où nous les avons vus précédemment. Sans être aveugle comme la nation, il voyait encore confusément. Jésus les avait séparés du peuple, comme il avait conduit l'aveugle hors de la bourgade. Et là, dans sa patiente grâce, il achèverait son œuvre jusqu'à ce qu'ils vissent tout clairement. C'est ce qui leur arriva après la résurrection du Seigneur et après l'envoi du Saint-Esprit. Luc 24, verset 45.
Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures.
Jésus renvoie dans sa maison celui qu'il avait guéri, en lui disant « N'entre pas dans la bourgade et ne le dis à personne dans la bourgade », verset 26. C'était inutile de proclamer plus longtemps ce que Jésus faisait, car la nation était décidée à ne pas le recevoir. Le rejet de Christ se dessine dans ce chapitre, où l'activité de son amour ne cesse pas, malgré l'état du peuple et de ses disciples. Il agit selon sa puissance divine pour nourrir les foules, versets 1 à 9. Vu l'incrédulité manifeste des pharisiens, il les laisse, versets 10 à 13. Il supporte patiemment les disciples qu'il a séparés de la masse pour accomplir toute son œuvre en eux, afin de les rendre capables de voir distinctement, versets 14 à 26. Dans le reste du chapitre, Jésus va annoncer sa mort, seul moyen d'amener l'homme à Dieu pour être béni, puisque dans son état naturel, il le rejette. Jésus annonce sa mort, versets 27 à 38.
Lecture de la parole. Et Jésus s'en alla et ses disciples au village de Césarée de Philippe. Et chemin faisant, il interrogea ses disciples leur disant, « Qui disent les hommes que je suis ?» Et ils répondirent, « Jean le baptiseur, et d'autres Élie, et d'autres l'un des prophètes. » Et il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre, répondant, lui dit, « Tu es le Christ. » Et il leur défendit expressément de dire cela de lui à personne. Et il commença à les enseigner, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite après 3 jours. » Et il tenait ce discours ouvertement. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre. Mais lui, se retournant et regardant ses disciples, reprit Pierre, disant, « Va arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Et ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'Évangile la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.
Lecture de l'étude. En se rendant au village de Césarée de Philippe, ville située au pied du Liban, Jésus interrogea ses disciples en ces termes. « Qui disent les hommes que je suis ?» Et ils répondirent « Jean le baptiseur, et d'autres Élie, et d'autres l'un des prophètes. » Alors comme aujourd'hui, l'homme naturel ne peut admettre que Jésus soit le Christ, le Fils de Dieu. Ceux même qui le considèrent comme un personnage extraordinaire n'admettent pas sa divinité, ni qu'il soit le Sauveur envoyé de Dieu pour le salut des pécheurs. Aussi Jésus dit aux Juifs en Jean 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. » En ce qui concernait le salut d'Israël, il fallait croire que Jésus était le Christ, le Messie promis qui devait délivrer son peuple. Matthieu 1, verset 21.
Tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés.
Et Luc 1, verset 70-71.
Selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été de tout temps une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent.
S'adressant aux disciples, Jésus leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre, répondant, lui dit, « Tu es le Christ. » Et il leur défendit expressément de dire cela de lui à personne. Désormais, la nation allait être laissée dans son incrédulité. Dieu avait fait pour elle tout son possible. On n'avait pas écouté les prophètes. On avait mis à mort le précurseur du Messie. À part quelques-uns, on n'avait fait aucun cas de la prédication du royaume par le Seigneur et les disciples. Et après tous les miracles de Jésus, les pharisiens demandaient un signe. Tout démontrait que du côté de l'homme, rien n'était possible. Il ne restait pour lui que la mort et le jugement. C'est alors que Jésus parle de la mort qu'il subirait lui-même à la place des coupables, afin que Dieu pût accomplir ses pensées de grâce envers le peuple juif, comme envers tous les pécheurs. Et il commença à les enseigner. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite après 3 jours, verset 31. Cette révélation soumet la foi des disciples à une terrible épreuve. Ils venaient de confesser que Jésus était le Christ et pouvaient s'attendre à ce qu'il leur dit, « Vous seuls qui croyez en moi, vous allez régner avec moi, tandis que je jugerai ceux qui me rejettent. » Au lieu de cela, il leur apprend qu'il va souffrir beaucoup et être mis à mort. Aussi, en entendant ces paroles, Pierre prend Jésus à part pour le reprendre. Nous savons par Matthieu 16, verset 22, en quels termes il le fit.
Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, disant, « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. »
Jésus, se retournant et regardant ses disciples, reprit Pierre, disant, « Va arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celle des hommes, verset 32-33. Pierre jugeait à la façon humaine. Il voulait un Messie glorieux, avec lequel il partagerait la gloire immédiatement. Mais il méconnaissait le côté de Dieu, le seul à considérer en toute chose. Il ne comprenait pas que le règne de Christ ne pouvait s'établir qu'en vertu de sa mort qui réconcilierait toutes choses avec Dieu et ôterait le péché devant ses yeux. Cette mort était nécessaire non seulement pour que les promesses faites à Israël s'accomplissent, mais pour que dans l'éternité une nouvelle terre pût être peuplée d'hommes sauvés, semblables à Christ. Pierre ne pensait qu'à un règne présent, sans tenir compte du péché qui le rendait impossible sans la mort de Jésus. il y pensait selon l'homme et non selon Dieu. En reprenant le Seigneur, Pierre se trouvait, sans qu'il s'en doutât, dans la main de Satan pour détourner de lui les autres disciples dont le salut ne pouvait avoir lieu qu'en suivant un Christ souffrant et rejeté, qui devait passer par la mort ignominieuse de la croix. Aussi Jésus reprend Pierre en regardant les disciples, afin que tous comprennent bien la gravité de l'erreur de Pierre et ses conséquences. Que serions-nous devenus si le désir de Pierre eût reçu satisfaction? Lui-même, et nous tous, nous serions demeurés éternellement sous les conséquences terribles de nos péchés. La croix est donc le chemin de la gloire, comme elle est le chemin du salut. Jésus le fait comprendre à la foule et aux disciples, versets 34 et suivants. Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'Évangile la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Suivre Christ, vouloir le ciel et le monde en même temps, est une chose impossible que plusieurs désirent et qu'ils ont souvent essayé. Si quelqu'un veut suivre Christ, c'est-à-dire veut être sauvé, qu'il renonce à sa vie d'homme naturel ici-bas, car cette vie-là s'oppose à Dieu. Elle a nécessité la mort de Christ. À elle se rattachent le péché et la condamnation éternelle, mais aussi toutes les jouissances de ce monde auxquelles le cœur naturel tient si fortement. Toutes ces choses qui satisfont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, verset 16.
Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père mais est du monde.
On ne peut donc suivre Christ et satisfaire une vie qui a causé sa mort. Tandis que celui qui renonce à ce que le monde peut offrir comme aliment de ses convoitises, pour l'amour de Christ et de l'Évangile, sauvera sa vie pour l'éternité. Ce qui le rendra capable de renoncer à cela, c'est la jouissance de l'amour dont il est l'objet et la pensée de tout ce que Christ a souffert pour le sauver. Car à quoi servent les avantages que peut offrir un monde qu'il faudra laisser un jour pour continuer son existence dans les peines éternelles? Que ne donnerait pas un homme pour racheter son âme lorsqu'il constatera, trop tard, que tout est perdu sans retour? Satan attire l'attention de ceux qu'il veut perdre sur les choses présentes qu'il faut abandonner pour suivre Christ. Mais il ne présente jamais les conséquences éternelles qui seront la part de ceux qui l'auront écouté, ni le bonheur de ceux qui auront cru Dieu. Jésus expose les conséquences de la conduite tenue ici-bas et fait voir que, si pour sauver sa vie, il faut le suivre dans le chemin du renoncement et de la mort, il n'en sera pas toujours ainsi. Car lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père, accompagné de ses saints anges, il aura honte de ceux qui auront eu honte de lui et de ses paroles parmi cette génération adultère et pécheresse. Lorsque Jésus apparaîtra glorieux comme roi des rois et seigneur des seigneurs, accompagné de toutes les armées qui sont dans le ciel, ses rachetés, alors que tout œil le verra, qui voudrait ne l'avoir pas suivi sur cette terre? Apocalypse 19, versets 14 à 16.
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur, et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Et lui les pétra avec une verge de fer, et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Par la grâce de Dieu, il est encore temps de prendre place à la suite d'un sauveur rejeté, seul moyen d'être avec lui dans la gloire. Bientôt il viendra chercher ceux qui n'auront pas eu honte de lui, et la porte du salut se fermera. Le sort de chacun sera fixé pour l'éternité. Dieu veuille qu'un grand nombre encore fasse comme Moïse, qui avait choisi plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération. Hébreux 11, versets 25 à 26.